Bonjour à tous, les guérisons miraculeuses, ça arrive à Lourdes, mais pas seulement. Quel regard la science pose-t-elle sur ces phénomènes mystérieux? Qu'en conclure? On en parle dans votre service public ce matin. Et ce mois-ci, j'ai encore effectué un test pour le magazine Avantage et figurez-vous que je ne l'ai pas mal pris. Il s'agissait d'essayer un Slenderton Abs, une ceinture vibrante censée faire fondre cette graisse abdominale dont parle souvent Laetitia Gaillet. J'ai confiance dans cette machine. Mes tablettes de chocolat sont profondément là, disons plus précisément qu'elles sont enfouies dans un pain au chocolat. Les carrés sont là, mais dans la brioche. Cette ceinture vous promet donc de dénicher les abdominaux les plus insoupçonnables, moyennant une dose quotidienne de 30 minutes de sport, 30 minutes de sport devant la télé. Un autre programme, ça pourrait également marcher, mais bon, regarder les autres brûler des calories, c'est peut-être contagieux. C'est donc sain d'un vibromasseur géant que je me suis vautré devant un match de ping-pong. Slenderton promet une augmentation de 49% de la force abdominale en 30 minutes par jour, à coup de 90 minutes de match de ping-pong, mes abdos vont donc être boostés de 3 x 49, 147%. Le Slenderton pour le calcul mental, je n'en ai pas besoin, mais 147%, c'est trop pour un seul homme. Du coup, j'ai décidé de ne pas abuser. Vous savez, les physiques à la Chuck Norris, je ne suis pas sûr que ma femme aime ça. En plus, les abdos imposants, ça n'irait pas avec mes nouvelles lunettes. Fort de ces considérations, j'ai donc décidé volontairement de brider cette première séance. C'est comme le dopage pour qu'il ne soit pas détecté. Mieux vaut ne pas donner toute sa puissance tout de suite. J'ai donc décidé de me lester d'un paquet de chips et d'un pack de bière. Gagner des abdos en 4 semaines, pourquoi si vite? J'ai bien calculé, je ne me mettrai pas en maillot de bain avant 3 mois.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et puisque nous sommes le lundi de Pentecôte, il était important de parler des guérisons inexpliquées, mais d'en parler en compagnie de 3 scientifiques, même si leurs disciplines respectives ne sont pas les mêmes. Je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, en duplex de Nîmes, Jean Brissonnet, bonjour. Jean Brissonnet, bonjour. Vous êtes agrégé de physique, vous êtes ancien vice-président de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Vous avez publié beaucoup de livres sur la médecine post-moderne, notamment qui prendrait le pouvoir sur les médecines non conventionnelles. Et je vous demanderai quel regard le scientifique que vous êtes porte sur ces médecines alternatives ou sur ces médecines que vous qualifiez de non conventionnelles. À côté de moi se trouve Jean-Paul Moureau. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'Un main nue, soigner et guérir aux éditions du Seuil. Vous êtes ce que l'on appelle un éthiopathe. Un éthiopathe, ce n'est pas un médecin. Vous considérez comme un scientifique, Jean-Paul Moureau. Pourriez-vous nous définir ce qu'est l'éthiopathie?
L'éthiopathie et une recherche de la cause de la maladie, d'un point de vue éthiologique, non, pour déterminer ce qui produit la souffrance d'un patient. En médecine classique, on fait de la médecine dite symptomatique, c'est-à-dire qu'on se contente de soigner le symptôme le plus apparent, et puis on en reste là en règle générale. Quoique le but de tout médecin devrait être de remonter à la cause de la maladie, ce qu'ils ne font pas. Donc, éthio, Aïta en grec, la cause, pathos, la souffrance. Nous essayons, grâce à une grille logique, issue de la théorie des systèmes, de remonter à la cause par cascade des pathologies successives et d'identifier la cause première.
Et alors, pour que l'on comprenne bien, vous soignez uniquement avec vos mains, vous soignez sans médicaments, évidemment, puisque vous n'êtes pas médecin.
Quand il s'agit de pathologies mécanistes, rhumatoïdes, orthopédiques, nous pouvons soigner avec les mains avec beaucoup de succès. Quand il s'agit malheureusement d'autres pathologies, nous tombons parfois sur des cancers ou sur des maladies dégénératives graves, nous envoyons le patient immédiatement dans un hôpital ou chez le spécialiste dédié.
Vous nous direz quelles sont les maladies, quels sont les problèmes physiques ou plus que physique d'ailleurs, auquel vous pensez avoir trouvé un remède. Et puis à côté de moi se trouve Laetitia Orgorzelec-Guinchard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférences en sociologie à l'Université de Franche-Comté et vous publiez aux presses universitaires de France Le Miracle et l'Enquête, Les guérisons inexpliquées à l'épreuve de la médecine. Qu'est-ce qu'une sociologue a à dire sur ces miracles thérapeutiques comme ceux qui sont censés se produire par exemple à Lourdes.
Alors, moi, je me suis moins intéressée aux miracles qu'au travail d'enquête et d'expertise de médecins un peu particuliers, dont l'activité est largement méconnue. Donc, il s'agit des médecins du bureau médical de Lourdes qui sont chargés de contrôler les guérisons qui se produisent au sein de ce sanctuaire. Alors, au niveau du sens commun, on considère souvent que la production de cet objet, le miracle, ne repose pas sur un travail, mais qu'elle relève d'un simple constat, voire d'une exclamation. C'est un miracle. Eh bien non, même si un homme paralysé se remet soudainement et contre toute attente à marcher, eh bien ce n'est pas encore un miracle. Alors ça n'a l'air de rien, mais la nuance est très très importante parce que entre le moment où notre homme paralysé se remet à marcher et le moment où le miracle est officiellement proclamé par l'Église, eh bien, il se passe plusieurs années, 4 ans, 6 ans, parfois même plus de 10 ans. Et c'est ce moment précisément qui m'a intéressée. Que se passe-t-il pendant toutes ces années? Eh bien, une enquête collective est à l'œuvre et cette enquête mobilise en grande partie des médecins.
Qu'est-ce qu'une sociologue pense de quelque chose d'aussi irrationnel en apparence que ce miracle, autrement dit, une personne qui ne pouvait pas marcher, qui était paralysée, qui soudainement, alors que tout démontrait qu'elle ne pourrait plus jamais marcher, puisque l'exemple que vous donnez en introduction de votre livre est celui d'un patient au XIXe siècle qui souffrait d'une plaie purulente, enfin de toute une série de choses qui manifestement donnaient à penser qu'il ne marcherait plus jamais. Et puis finalement, ce monsieur se remet à marcher sans plaie aucune. Vous êtes rationnel, rassurez-moi, Laetitia Orgorzelec-Guinchard. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, je ne me prononce pas sur... Je me prononce pas sur la guérison, le sens de cette guérison, l'explication de cette guérison, mais je m'intéresse au travail qui est fait, donc qui est réalisé par les médecins pour certifier que cette guérison est inexpliquée et à l'enquête pastorale faite par l'Église pour signifier que cette guérison est bien un miracle. Donc en fait, moi, j'essaie de montrer qu'avant d'être un objet de croyance, le miracle est un objet d'enquête et d'expertise. Et c'est en quelque sorte une appellation contrôlée, voilà, qui relève d'une activité de contrôle.
Et puis on va voir ce que les scientifiques ont à dire sur ces miracles ou sur cette médecine non conventionnelle. On va le voir, on va l'entendre tout de suite après Daven Keller, Slogan, un disque choisi par Thierry Dupin avec Olivier Bétard à la réalisation.
Des cadillacs sur le flanc, du rouge à lèvres sur tes dents. Des rapides, des courants, des slogans. Violents. Des carrières, des cadences. Des caïdes, des cadents. Des liftings fascinants. Des litiges, forcément. Des slogans. Thank you.
Service public sur France Inter. Il est question des guérisons inexpliquées. Nous en parlons en compagnie de Jean-Paul Moureau, éthiopathe, qui publie à main nue aux éditions du Seuil un ouvrage où il explique comment il soigne, comment il guérit avec ses mains. Il nous expliquera en quoi il se considère comme étant en quelque sorte un rebouteux passé à la méthode scientifique. Laetitia Gorzelec-Guinchard, qui est sociologue et qui publie Le Miracle et l'Enquête, un livre où elle étudie dit comment le bureau de vérification des miracles de Lourdes en quelque sorte fonctionne. Et puis Jean Brissonnet, agrégé de physique en duplex de Nîmes. Jean Brissonnet, vous posez votre regard de scientifique sur ces médecines non conventionnelles. Et que pensez-vous au sujet de ces médecines non conventionnelles?
Alors je crois que le cas des médecines non conventionnelles est fort différent du cas des miracles de Lourdes.
Oui.
C'est-à-dire que, au contraire, j'ai un satisfait à donner très important à l'épiscopat, qui s'est lui vraiment placé dans une démarche vraiment scientifique. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on pourra me contredire si ce n'est pas vrai. Il y a 7000 dépôts de demandes de miracles à Lourdes chaque année, et en gros, en moyenne, il y en a un qui est retenu. Donc, si vous voulez, on a mis en place quelque chose de très sérieux. On l'a de manière assez récente quand même, puisque avant 1940, ce n'était pas une commission de médecins qui faisait le tri. Et pour citer une anecdote, disons que il y a eu 29 guérisons l'année du cinquantenaire des apparitions. C'est un petit peu, bon, disons que peut-être les chiffres là ont été
un heureux hasard.
Moi, je... Ah ben voilà, les anniversaires comptent.
Un heureux hasard, oui, mais voilà, alors pour le coup, c'est quand même assez paradoxal, puisque vous considérez, Jean Brissonnet, qu'il y a plus de rationalité dans l'Église lorsqu'elle vérifie en quelque sorte qu'un miracle a eu lieu à Lourdes, plutôt qu'un praticien qui, effectivement, développe une médecine alternative, mais malgré tout, pense développer une médecine.
Oui, tout à fait. Non, il n'y a aucun problème. Là, j'abonde absolument. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux manières de constater une guérison. Hein. Il y a deux manières de constater l'efficacité d'un traitement, hein, ou de quelconque action métathérapeutique. La première, c'est le récit. Hein. On raconte, on dit, voilà, j'ai guéri, j'ai été guéri, je témoigne, mon voisin a été guéri, il s'est levé, et voilà, bon, d'accord, ça c'est le récit. Et le deuxième, c'est une méthode qui est très complexe et qui est scientifique, car la médecine n'est pas une science. Les médecins ne sont pas des scientifiques, en particulier les médecins donc qui ne participent pas à la recherche. Or, pour la médecine, ça n'est pas comme pour la physique, si vous voulez. Si pour la physique, vous voulez savoir s'il y a du sodium dans un cristal, vous le passez au spectroscope. Si vous voyez l'arrêt du sodium, vous dites il y a du sodium, point barre. Et c'est vrai. Il y a pas. C'est une science exacte. En médecine, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil parce que il ne suffit pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui a séparé la médecine scientifique moderne, ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves, de la médecine ancestrale. La médecine ancestrale, qui n'est pas du tout à mépriser, hein, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait de la constatation. Et puis, un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Claude Bernard, qui a publié un livre qui s'appelle « Introduction à la médecine expérimentale ». Et il a dit, ce monsieur, il a écrit, entre autres, hein, il a dit bien d'autres choses dans ce livre, mais il a dit en chose, attention, il faut faire la contre-épreuve. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « j'étais malade », j'ai fait une action thérapeutique, je suis guéri, donc l'action thérapeutique m'a guéri. Il faut encore faire la contre-épreuve. C'est-à-dire, il faut dire, je suis malade, je n'ai pas fait de traitement thérapeutique et je n'ai pas été guéri. Et à ce moment-là seulement, on peut considérer qu'il y a eu guérison par l'action thérapeutique.
Eh bien, on va poser la question à Jean-Paul Moureau, puisque lui... et éthiopathe, il pratique donc une médecine non conventionnelle. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez une sorte de rebouteux, Jean-Paul Moureau, on peut dire ça?
On peut dire ça, puisque nous nous prétendons les héritiers des rebouteux des campagnes, qui sont des gens qui avaient des pratiques manuelles également, et des résultats qui ne sont plus à démontrer. À une époque, comme le soulignait M. Brissonnet, où on n'avait pas les moyens scientifiques de constater effectivement le résultat des guérisons.
Vous aviez des rebouteux dans votre famille?
Ma grand-tante était rebouteuse et mon père soignait les chevaux aussi, puisque, monsieur Puissonnet, je suis votre voisin, étant donné que je passe la moitié de ma vie en Camargue où j'élève des chevaux. J'ai 150 chevaux sauvages dans les marais de Gimaux et j'y passe la moitié de ma vie.
Et alors, que vous ont-ils appris ces rebouteux?
Alors, ces rebouteux, c'est-à-dire essentiellement ma grand-tante, m'a montré des gens arrivés mal en point, éclopés, souffrants, invalides, et repartant, je parle de traumatologie classique, debout, en bon état, parce que le geste thérapeutique, dans ce domaine, est beaucoup plus efficace qu'un traitement médical par anti-inflammatoire, ou pas, et même le médecin de la ville à côté était complètement d'accord avec les gestes de la tante Claudine, qui était effectivement, de façon constatable, efficace.
Donnez-nous des exemples de ce que, non seulement votre tante, mais vous-même, guérissez. Qu'est-ce qui, généralement, est le plus efficace dans vos pratiques? Les gens qui viennent vous consulter, qu'ont-ils avant et qu'ont-ils après, Jean-Paul Moureau?
Je vais vous donner l'exemple que je cite dans mon livre, au début du livre. On me demande de voir un comédien qui d'à peu près 90 ans, qui était en train de jouer au théâtre et qui, après 15 jours de performance, tombe paralysé. Donc, il est hospitalisé dans un grand hôpital parisien. Il y passe une vingtaine de jours. Il est vu par les plus grands spécialistes de Paris. Et au bout de 20 jours, on lui dit qu'il est paralysé, il n'y a plus rien à faire, la conduction nerveuse ne passe plus et qu'il doit tout arrêter. Donc, sur les conseils toujours de relations, notamment de médecins d'ailleurs, il vient me consulter et j'ai quand même passé une vingtaine de ma vie dans les hôpitaux de Paris, notamment l'hôpital Beaujon, dans le service de traumatologie et d'orthopédie du professeur Cauchois, à travailler en collaboration avec lui. Et quand ce patient arrive au cabinet, il avait une pile de radios impressionnantes et je m'aperçois très vite que il était porteur d'une prothèse de hanche que je connaissais bien, puisque à l'époque, on posait ce type de prothèse à l'hôpital Beaujon, dans les années 80, et que cette prothèse avait un défaut, qui a été composée de deux anneaux encastrés, et que les deux anneaux, certainement à la suite d'un choc, ou je ne sais pas, d'une glissade, s'étaient bloqués. Donc je me suis approché de ce patient, j'ai fait un geste que j'avais fait souvent à l'époque à Beaujon, pour débloquer cette prothèse qui s'était bloquée. J'ai demandé au patient de se mettre debout. Il a refusé. Il a dit, mais monsieur, je suis paralysé. Il n'est pas question que... Donc, il était entouré de toute une équipe de jeunes gens qui l'avaient accompagné. Et j'ai demandé à ses accompagnateurs de le prendre en poids, de le mettre debout. Donc, au début, après 3 semaines au lit, il était un peu défaillant. Mais il a fait quelques pas. Il s'est enhardi. Et il a marché normalement, ce qui était normal, puisqu'on avait cédé le blocage. Il a repris ses performances le mardi suivant. Il a joué pendant 8 mois. Cette année-là, il a été Molière d'or dans sa profession, dans sa partie. Et il est donc un exemple parfait de cas où le monde médical classique peut passer à côté de la causalité et où nous, éthiopathes, arrivant à démontrer l'origine et réduire à main nue l'origine, nous corrigeons le problème.
Quel regard portez-vous, Jean Brissonnet, sur ce type de guérison? Alors, vous remarquez que là, il ne s'agit pas d'une guérison inexpliquée. On a affaire à un praticien qui explique comment il a soigné avec ses mains.
Alors, nous avons beaucoup de choses en commun avec Monsieur Moureau, hein, puisque ma mère pratiquait aussi le pansage en Berry.
Oui.
Et en plus, mon père était bourrelier. Donc, comme le vôtre était maréchal ferrant,
c'est
vous voyez,
ça,
on est
Boisson,
très près.
Oui. Oui, oui.
Mais simplement, moi, j'ai cherché à comprendre. La guérison des brûlures, par exemple, je peux expliquer qu'est-ce qui se passe quand on va voir quelqu'un qui vous guérit ses brûlures. Mais je crois qu'il faudrait avant revenir sur la notion de preuve en médecine. La preuve en médecine ne peut pas se faire sur l'acte individuel. Il faut, pour faire une preuve en médecine, et pour qu'une discipline soit admise, qu'un médicament soit admis, qu'un traitement soit admis, il faut faire des études cliniques contrôlées. Il faut faire des études cliniques contrôlées. Il faut publier ces résultats dans les journaux internationaux, au comité de lecture, c'est-à-dire avec des gens qui sont de votre niveau. Il ne faut pas se contenter du récit, parce que des récits, Moi, je peux en faire aussi. Je veux dire, bon, je ne vous mets pas en cause. Et d'ailleurs, je voudrais bien préciser une chose pour qu'on me comprenne bien. C'est que on me fait souvent passer pour un farouche ennemi des pratiques non conventionnelles. C'est totalement faux. Je considère que les pratiques non conventionnelles, sous certaines conditions, que je peux énoncer, eh bien, sous ces conditions, elles ont un peu leur place.
Est-ce que vous pourriez nous les préciser, alors, Jean-Paul Brissonnet, nous préciser rapidement ces conditions?
Je précise. La première, et que semble appliquer Monsieur Moureau, c'est de ne jamais faire interrompre un traitement médical et de ne jamais déconseiller aux patients d'aller voir la médecine conventionnelle. C'est la première chose. La seconde, eh bien, c'est de ne pas venir pleurnicher pour être remboursé par la sécurité sociale, alors qu'il n'y a aucune preuve d'efficacité. Aucune. On peut chercher dans toutes les bases de données internationales du monde entier. Parcourez Medline, c'est sur Internet. Vous ne trouverez jamais une publication qui montre l'efficacité de l'homéopathie. Ceci étant...
Alors, l'homéopathie, c'est encore autre chose. Nous avons consacré une émission à cela. Là, on était plutôt sur l'ostéopathie, ou en tout cas sur une médecine qui se pratiquait avec les mains. Jean-Paul Moureau, par rapport à ce que vient de dire Jean Brissonnet. Donc, vous ne réclamez évidemment pas le remboursement par la sécurité sociale. Moi, j'avais une remarque autre par rapport au risque que vous venez de faire. Là, il s'agissait d'une prothèse de hanche. Cette prothèse de hanche, elle avait un défaut. Elle s'était bloquée.
Elle avait 30 ans et au bout de 30 ans, elle s'était bloquée.
D'accord. Je ne fais aucune critique contre les prothèses de hanche, mais enfin, bon, il y avait quelque chose qui relevait du mécanique là-dedans.
Oui.
Vous citez d'autres exemples dans votre ouvrage à main nue. Vous citez également le cas d'une femme que vous découvrez sur un lit qui témoigne de son état de santé. Vous dites qu'elle est très maigre et vous trouvez en quelque sorte la maladie ou en tout cas le mal dont elle souffre.
Oui.
Lequel ?
Elle a un trouble viscéral, abdominal, avec une stase importante de matière qui comprime en permanence le nerf sciatique, le tronc du sciatique, et amène avec le temps à rendre ce tronc du sciatique. On sait que tout nerf qui est paralysé pendant un certain temps finit par avoir une dégénérescence. Et repérant, donc identifiant l'origine précise de la compression, j'arrive par action directe sur l'abdomen, avec mes mains, à déplacer la masse du grêle des organes, à décomprimer ce tronc sciatique et à lui permettre, parce que la dégénérescence valérienne peut, si on libère la compression, se reconstruire tant que la partie périphérique est présente, et elle a récupéré en quelques semaines et elle a guéri totalement. Ensuite, le mot guérir, Si vous avez lu mon livre, je ne parle jamais de guérison, je parle toujours d'amélioration du sujet, parce que nous obéissons tous à notre potentiel génétique qui va décroissant tout au long de notre vie et qui, fatalement, en bout de compte, va nous amener à la mort. Donc,
c'est comme ça.
C'est comme ça. Donc, nous essayons à tout moment de remettre l'individu qui souffre en harmonie avec son maximum génétique.
En tout cas, vous ne parlez pas de miracle, vous donnez une explication à cela. Les miracles, on va en parler tout de suite après les mamas et les papas Monday, parce qu'on est le lundi de Pentecôte.
Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how
Service public sur France Inter, les guérisons inexpliquées. On en parle en compagnie de Jean Brissonnet, agrégé de physique, ancien vice-président de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Il est en duplex de Nîmes. Jean-Paul Mouraud, éthiopathe, qui publie à main nue aux éditions du Seuil. Et Laetitia Gorzelec-Guinchard, qui est sociologue et qui publie Le miracle et l'enquête, les guérisons inexpliquées à l'épreuve de la médecine aux presses universitaires de France. Laetitia Gorzelec, Jean Brissonnet, qui est là pourtant pour camper le scientifique sourcilleux, a dit que l'Église avait des procédures extrêmement rationnelles de vérification du miracle. Expliquez-nous ce que ça signifie.
Alors, les autorités religieuses du sanctuaire
de Lourdes,
voilà.
Je précise pour ceux qui ne sont pas habitués.
Voilà, sont en quelque sorte obligés de se conformer aux critères de la vérité médicale de leur époque pour ne pas se discréditer et pour rendre les guérisons qui se produisent au sein du sanctuaire encore plus éclatantes. Alors, effectivement, pour constituer le garant scientifique que sollicite l'Église, le médecin qui intervient dans le cadre du contrôle des guérisons de Lourdes est plus que tout autre médecin tenu de se conformer aux évolutions des connaissances médicales, parce que les autorités religieuses lui demandent précisément de parler en médecin pour contrer les attaques des rationalistes. Un peu comme un capitaine demande à ses éclaireurs, avant la bataille, de les renseigner sur les positions de l'ennemi.
C'est-à-dire qu'ils vont être extrêmement prudents et qu'ils ne vont absolument pas faire confiance en un patient qui dirait qu'il a été guéri. Ils vont mener toutes les investigations nécessaires, Laetitia Gorzelec, pour être certain que la personne qui estime avoir été miraculée est bien miraculée ?
Exactement. Alors, un exemple, la création à la fin du 19e, en 1883, la création du bureau médical, donc une instance médicale permanente au sein même du sanctuaire.
Donc c'est très ancien.
Voilà. Alors, que ce bureau médical ait vu le jour au moment précis où la médecine parisienne atteignait le sommet de sa notoriété pour ses travaux sur l'hystérie, c'est absolument pas une coïncidence. Parce qu'il fallait réagir, entre autres, contre Jean-Martin Charcot et son école de la Salpêtrière.
Donc, un pionnier, en quelque sorte, de la psychiatrie
qui soutenait que les miraculés relevaient simplement de mécanismes psychopathologiques. Donc, ce que l'Église met en place à travers la création du bureau médical, c'est une véritable réplique pour neutraliser et rejeter les critiques des rationalistes. Les médecins du bureau médical vont être explicitement chargés de trier les guérisons. Donc, ne retenir que les véritables guérisons organiques susceptibles de convaincre les sceptiques, en rejetant les guérisons qui auraient une coloration hystérique et qui risqueraient de jeter le discrédit sur le lieu saint. Donc, autrement dit, la Salpêtrière lance cette attaque. Ce que Lourdes fait, nous pouvons aussi bien le faire. Nous faisons des convulsions, donc nous pouvons aussi faire des guérisons. Ce à quoi Lourdes rétorque, guérissez tant que vous voudrez, il y a un certain nombre de guérisons que vous ne pourrez pas faire et que nous ferons. Donc toute l'histoire de la procédure de contrôle des miracles à Lourdes se fonde sur un retournement systématique des critiques des rationalistes.
Et alors donc ces médecins, que font-ils? Puisque donc ils examinent, néanmoins dans la médecine la plus orthodoxe qui soit, il y a l'effet placebo, il y a la possibilité d'une maladie psychosomatique. Alors comment font-ils pour dire qu'il y a véritablement quelque chose comme un miracle? C'est un miracle, ça n'est pas l'administration d'un placebo. Un miracle, c'est réellement quelque chose non seulement d'inexpliqué, mais aussi d'inexplicable.
Alors, les médecins ne se prononcent absolument pas sur la signification de la guérison. Ils ne parlent pas du tout de miracle. C'est pas du tout leur affaire. Ils se contentent de garantir aux autorités religieuses le caractère inexpliqué de la guérison. Donc, leur mission, pour synthétiser les choses, on peut dire qu'ils doivent prouver rétrospectivement qu'il y avait bien maladie avant la guérison. Ils doivent s'assurer ensuite du caractère certain et définitif de cette guérison. Et puis, effectivement, ils doivent assurer l'Église que cette guérison, certaine et définitive, ne trouve aucune explication susceptible d'être retenue par la médecine.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Brissonnet ?
Alors moi, ce qui m'ennuie un petit peu dans le discours de madame, et je pense que c'est, ça dépasse un peu sa pensée, c'est qu'elle a l'impression que les rationalistes sont l'ennemi de l'Église, etc. Non, je pense que c'est pas du tout ça. Le problème, c'est que il y a personne ne nie qu'il y ait à Lourdes des guérisons inexpliquées. Le problème, c'est qu'il y a des guérisons inexpliquées ailleurs que Lourdes. Et que moi, j'ai consulté donc ce que je pouvais sur la question, j'ai rassemblé, et on s'aperçoit qu'il y a des guérisons inexpliquées.
Vous voulez dire à Lisieux aussi ?
Des rémissions inexpliquées. Alors ensuite, ces rémissions expliquées, elles existent partout. Alors, si on est croyant, si on a été à Lourdes, si on a envie de croire que c'est la Sainte Vierge qui l'a guéri, mais moi je trouve ça très bien. Parfait. Mais la science, elle, les gens qui, eux, ne sont pas allés à Lourdes, quand ils sont face à une guérison inexpliquée, ils se tournent vers la science, et la science qui, contrairement à ce que l'on dit toujours, n'a pas les réponses à tout, elle fait la réponse suivante, je n'en sais rien.
Et vous, Laetitia
Alors,
Gorgella,
moi, je suis
vous...
tout à fait d'accord avec Jean Brissonnet, hein, parce que je ne défends aucun parti, hein, ni celui des rationalistes, ni celui...
Comment vous ne défendez aucun parti?
Si vous voulez, moi, je cherche à comprendre le travail que...
Enfin, un sociologue, c'est un scientifique, et donc c'est quelqu'un qui, lui-même, est plutôt du côté de la rationalité, si je ne m'abuse.
Oui, bien sûr, mais si vous voulez, moi, je ne prends pas dans cette guerre, parce qu'il y a effectivement un moment où les rationalistes se déchaînaient contre ce qui se passe à Lourdes. Moi, j'essaie de décrire tout cela et de comprendre comment les médecins de Lourdes s'ajustent justement à ces critiques. Mais je ne défends pas... Je ne défends ni les médecins de Lourdes, ni les rationalistes.
Bien sûr, mais enfin, lorsque l'historien Marc Bloch étudie les rois thaumaturges, il pense que les rois ne guérissent pas. Il pense qu'il y a quelque chose qui guérit, mais qui n'est pas du domaine de la royauté. Vous faites un peu la même chose, c'est-à-dire vous pensez que ce n'est pas la Sainte Vierge qui guérit à Lourdes.
Tout à fait, mais je me contente de décrire ce travail, hein, sans donner mon opinion personnelle.
Jean-Paul Moureau, vous, votre opinion d'éthiopathe, vous ne faites pas de miracle, puisque vous avez un savoir que vous décrivez d'ailleurs dans votre livre à main nue. Quel regard portez-vous sur les miracles ?
Écoutez, je suis très dubitatif de la possibilité qu'il y ait des miracles. Personnellement, j'émets des doutes très très forts sur le miracle. Je pense qu'effectivement, il y a des guérisons inexpliquées, et cela, comme le soulignait M. Brissonnet, dans toutes les traditions, dans toutes les régions du monde, de tout temps. Dans la Bible, il est dit, ou dans l'Évangile, ils imposeront leurs mains aux malades et ceux-là seront guéris. Depuis toujours, il y a eu des guérisons inexpliquées. Et ces patients qui, à Lourdes, sont vérifiés par des médecins, avaient certainement, à un certain moment, des pathologies physiologiques. C'est-à-dire que j'avais vu l'histoire d'un canal lombaire étroit. Ça, c'est une vraie pathologie. C'est quelque chose que l'on peut aujourd'hui vérifier à l'IRM, au scanner. Après, qu'est advenu ce canal étroit? C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de déborder sur l'anatomophysiopathologie du patient. S'il est guéri, c'est qu'il y a eu une modification. Comment cette modification s'est opérée? C'est là où c'est très intéressant. Et M. Brissonnet nous a parlé de Claude Bernard. Claude Bernard a été vraiment un des pionniers.
L'un des pères de la médecine moderne.
Si ce n'est que... Il a cantonné l'homme à lui-même, c'est-à-dire il a enfermé dans son homéostasie. Et ce que j'explique en détail dans mon livre à main nue, c'est que l'homme n'est pas isolé. Il fait partie intégrante de son environnement. J'explique que pendant longtemps, on a essayé de trouver quel était le centre vital de l'homme. Son cœur, son poumon, son cerveau, chaque tradition et chaque époque, il y a eu le cardiocentrisme, le pneumocentrisme, l'encéphalocentrisme, et... Très Daniel, notre maître à penser, a défini le péricentrisme. C'est-à-dire qu'il a dit qu'en fait, la pathologie venait beaucoup plus souvent de l'environnement, venait plus souvent des niveaux qui nous dépassent et qui nous englobent, qu'on appelle généralement le stress. Et c'est là qu'il faut chercher, à mon sens, bien souvent, par l'effet que ce stress a sur notre système hypothalamo-hypophysaire et les déclenchements hormonaux qu'il engendre, l'effondrement du système immunitaire, c'est là qu'est le problème.
On va écouter Arnaud, les filles du bord de mer, et tout de suite après, on va continuer à évoquer les miracles et leurs explications possibles.
Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au temps si clair. Elle avait l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elle était belle, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin. Il y en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez la masseur, elle invitait les premiers baigneurs à tâter du côté de son cœur en douceur. En douceur et profondeur. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, 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 c'était chouette.
Service public sur France Inter, il est question des miracles et nous parlons des miracles en compagnie de Jean Brissonnet, ancien vice-président de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, de Jean-Paul Moureau, éthiopathe qui publie à main nue aux éditions du Seuil, et de la sociologue Laetitia Ogorzelec-Guinchard qui est maître de conférences en sociologie à l'Université de Franche-Comté qui publie Le miracle et l'enquête, les guérisons inexpliquées à l'épreuve de la médecine. La médecine, c'est une chose, il y a aussi des médecines non conventionnelles. Bonjour Raphaël Mantoux.
Bonjour Guillaume.
Vous voulez, vous aussi, réaliser des miracles. C'est pourquoi vous êtes entré dans une école qui n'est pas exactement une école de médecine. Elle se trouve dans la banlieue de Lille.
Oui, et comme je ne voulais pas passer 10 ans dans une faculté de médecine, je pensais qu'il me fallait un don de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère rebouteuse pour soigner mes proches. Chose qui ne m'est pas arrivée, mais miracle. L'école française de magnétisme propose d'apprendre à soulager les malades en un week-end de formation. Et Thomas Lefebvre dirige cette école. Il apprend à ses élèves à soigner une tendinite persistante ou encore les effets secondaires d'une chimiothérapie. Les mots rebouteux, guérison, ils sont proscrits. On parle de transfert d'énergie. Arrivé dans la salle de formation, les mots hypnose, détente et relaxation sont écrits sur les murs. La salle est sobre et l'enseignant n'a pas de barbe blanche.
Sur ce mur, en fait, il y a différents mots qui sont en accord avec, mais avec des valeurs, avec des qualités aussi qu'on est à même de pouvoir dynamiser dans nos disciplines. Vous avez la détente, vous avez l'harmonie, des choses vers lesquelles on essaie de conduire les personnes. Vous avez aussi la créativité, la fluidité, l'imagination. On n'a pas besoin de beaucoup d'artifices. Un fauteuil de type fauteuil relax peut suffire très bien pour travailler. On peut même travailler avec deux chaises. Il n'y a pas besoin, on va dire, d'avoir une orientation spécifique vers une direction donnée ou tout un tas d'autres choses.
Ça coûte combien cette formation ?
La formation, elle est à 399 euros. Ça dure donc 2 jours.
Vous diriez que vous êtes ce qu'on appellerait un rebouteux ?
Non. Par rapport à ça, je préfère le terme de praticien en magnétisme.
Pour pratiquer le magnétisme, il faut avoir un don.
Pas du tout. Dans le corps humain, il y a de l'électricité. Tout le monde a cette énergie. Donc le magnétisme, ça ne résulte pas d'un don. On apprend simplement à nos stagiaires à devenir des praticiens. Alors en fait, bien, ce fascicule reprend les grandes lignes des enseignements qu'on peut proposer aux stagiaires. Vous avez tout un tas d'expériences en magnétisme sur l'action sur la matière, sur l'action sur momifier la viande, des choses comme ça.
Vous avez dit de momifier la viande ?
C'est une expérience en fait qui consiste à déshydrater la viande.
Alors là, par exemple, je vois qu'il y a ce que vous appelez les passes de saturation.
La distance entre les mains et le corps du sujet, elle doit être de 2 ou 3 cm, parce qu'on a pu constater que la charge est maximale quand il y a contact et jusqu'à 2-3 cm. Au-delà, il commence à y avoir des déperditions.
Après avoir observé ce qu'ils appellent les passes magnétiques, je crois Jean-Jérôme, il vient régulièrement suivre des stages dans cette école. Il est consultant et veut maîtriser les techniques du magnétisme depuis peu.
Il y a une dimension quasi ésotérique quand on parle de magnétisme ou d'hypnose.
Est-ce qu'il y a eu des guérisons qui pour vous relevaient du miracle ?
Moi je parle pas de miracle en fait, je parle de flux énergétique. Le miracle ça va être plus une dimension spirituelle voire religieuse. Là je parle plus d'une imposition de main pour orienter un flux magnétique si vous voulez. Donc moi j'ai été vraiment stupéfait de voir des personnes prendre par exemple un billet de banque dans leurs mains et que le billet de banque se retourne complètement sur leurs mains. Donc ça, c'est des choses que j'ai vues ici, dans ce centre de formation. J'ai vu des personnes qui étaient vraiment polarisées, c'est-à-dire qu'il y avait un flux magnétique assez poussé. Grâce à cette formation, j'ai su le dompter, en tout cas l'analyser.
Le vôtre ou celui des autres ?
Le mien et ressentir aussi celui des autres. Donc quand on fait une passe magnétique, on perçoit des chaleurs ou des froideurs à différents endroits du corps.
Est-ce que vous employez le terme de guérison ?
On calme la douleur. Parler d'une guérison, quelqu'un qui est malheureusement atteint d'une pathologie grave ou d'un cancer, c'est quelqu'un qu'on va vraiment forcé à prendre ses médicaments ou à suivre le protocole hospitalier. Je veux dire, un magnétiseur n'est pas un médecin ni un praticien hospitalier.
Donc les jeunes diplômés du magnétisme restent prudents. Donc déception quand même, Guillaume, si vous faites cette école, vous ne pourrez toujours pas être l'auteur de guérisons miraculeuses. Il faudra peut-être passer par une école de rebouteux pour apprendre à faire une purge viscérale.
On va poser la question au rebouteux qui est là dans ce studio, Jean-Paul Moureau. Qu'est-ce que vous pensez de cette école ?
Écoutez, je n'en pense proprement rien, étant donné que je n'ai pas perçu tout ce qu'indiquait ce professeur, non. Ce que je veux dire, c'est que on ne tient pas assez compte de la souffrance des individus qui se présentent à nous. Ce qui est important, c'est de guérir des gens.
Attendez, parce que vous partez trop vite. Ce monsieur parle de magnétisme. Est-ce que vous pensez, donc vous avez une technique, vous l'expliquez d'ailleurs avec vos mots dans votre livre « À main nue », vous expliquez ce que vous faites. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de cette technique, vous avez un don ? Est-ce que vos mains ont quelque chose de différent des mains, par exemple, de Fabrice Desmaz, qui est en régie aujourd'hui ?
Le magnétisme est partout. Il y a le magnétisme terrestre qu'on peut enregistrer. On peut également mesurer votre propre magnétisme. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des antennes qui permettent de déterminer de façon tout à fait scientifique la quantité de rayons que vous émettez. Mais ce n'est pas pour ça que vous pourrez le transformer en geste thérapeutique ou l'utiliser pour modifier la physiologie de quelqu'un.
Est-ce que ça signifie que finalement, vous n'avez qu'un savoir et vous n'avez aucun don particulier, je parle pas de talent puisque vous avez vraisemblablement un talent, mais un talent, ça n'est pas quelque chose d'inexplicable.
Écoutez, si, c'est tout à fait inexplicable. Vous donnez un papier et un crayon à 10 personnes, vous leur demandez de vous faire un dessin, certains vous feront une œuvre d'art et d'autres vous feront un grabouillis. Ce qui veut dire que...
C'est pas parce que c'est inexpliqué que c'est inexplicable. Vous avez des gens qui ont du talent, d'autres qui n'en ont pas.
Voilà, mais... chacun dans son domaine, je pense aux musiciens, je pense aux pilotes automobiles, je pense aux praticiens, certains ont un talent, chacun dans leur domaine dédié, qui fait qu'ils sont plus forts que les autres.
Jean-Paul Brissonnet, vous voulez réagir?
Oui, ce que je voulais dire, c'est que bon, là, on est d'ailleurs, je pense que Monsieur Moreau l'a bien dit, il avait rien à dire sur la question pour la bonne raison qu'il s'agit là du discours traditionnel qu'on entend dans beaucoup de médecines. Il y en a plus de 400 aujourd'hui, peut-être 600, j'en sais rien, on les compte plus. C'est toujours des mêmes choses, c'est des magnétismes, c'est de l'énergie, c'est, ils vont même faire appel à la mécanique quantique. Les physiciens ont déjà bien de la peine à la comprendre et eux, ils l'ont compris alors qu'ils savent rien. Donc, tout ça, c'est du baratin, il faut être clair, là, je vais quand même pas... c'est de la poésie, hein. S'il y a des gens qui ont envie de payer pour faire semblant de se former à guérir, bah, qu'ils le fassent, moi, ça me gêne pas, hein, mais qu'on vienne pas nous raconter des histoires, voilà.
Il y a quand même quelque chose de commun à toutes ces expériences, au-delà de leur disparité, qu'il s'agisse de celles que vous présentez, Jean-Paul Moreau, de celles qu'on vient d'entendre, ou des cas de guérison inexpliqués que vous étudiez dans votre livre, Laetitia Ogorzelec, ou plutôt que le jury, que les commissions doivent étudier à Lourdes, c'est le phénomène de croyance qui, lui, est indispensable en quelque sorte, puisque si la Vierge de Lourdes guérit, elle guérit avant tout des gens qui croient et elle guérit avant tout des gens qui sont convaincus de l'efficacité de ces procédés. Quelle explication faites-vous à la croyance? Quel rôle consacrez-vous à la croyance dans ces guérisons?
Alors, moi, je me suis vraiment intéressée au dispositif, hein, donc au dispositif de contrôle et d'enquête qui se met en place sur le sanctuaire de Lourdes. Comment ce dispositif fonctionne-t-il? Comment se transforme-t-il? Comment aujourd'hui il conduit ce même dispositif à ce que certains appellent une raréfaction des miracles à Lourdes? Donc c'est vraiment ce qui m'a intéressé. Donc moi, effectivement, je ne me suis pas beaucoup penchée sur la question des croyances.
Jean-Paul Moreau, vous voulez réagir? Oui. Et conclure?
Oui, j'aimerais qu'on puisse relire les travaux de Lévi-Strauss sur son anthropologie structurale, où il parle de la croyance, et notamment chez des peuples primitifs, comment des gens qui sont primitifs croient plus que les autres, et ont parfois des guérisons encore plus inexpliquées, en passant par le phénomène de la croyance. Donc, dès que l'on croit, ça affaiblit considérablement certains systèmes, et donc Lévi-Strauss conclut en disant que si on ne croit pas, on ne peut pas être envoûté ou on ne peut pas subir le préjudice d'une influence extérieure. Donc je pense qu'il avait parfaitement défini le niveau et l'intérêt de la croyance.
Et cependant, dans votre livre, Jean-Paul Moreau, vous expliquez guérir des gens qui ne croient pas en vous, puisque vous citez le cas d'une femme qui était, semble-t-il, souffrante ou qui souffrait de problèmes de fécondité, que vous avez guéri, qui n'était pas contente du tout parce qu'elle voulait pas du tout parler de ça avec vous, ce qui signifie que il n'y a pas nécessité de croire en vos pouvoirs selon vous.
Mais je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. Donc, j'emploie
pouvoir au sens large.
Des méthodes mécanistes qui fait que dans le domaine dont vous parlez de la fécondité, nous avons eu au cabinet des milliers de naissances sur des femmes qui avaient fait de nombreuses FIV, de nombreuses fécondations médicalement assistées, qui étaient stériles après tout ce travail médical.
Et alors, dans ce cas, l'avez-vous expliqué?
Parce que nous régulons des systèmes neurovégétatifs, nous régulons des systèmes nerveux, nous régulons des boucles de rétrocontrôle pour que ces gens-là qui avaient un problème et qui n'étaient soignés que de façon hormonale puissent être abordés d'une autre façon non hormonale, plus neurologique, et avoir des résultats. Et il y a d'ailleurs dans le domaine des femmes qui ne peuvent avoir d'enfants une chose très étonnante, c'est que beaucoup de femmes qui adoptent un enfant tombent enceintes l'année d'après. Là aussi, ça veut dire que l'influence de l'environnement est très importante dans une guérison, si vous voulez.
Voilà, si vous voulez en savoir plus et vous faire une opinion par vous-même, je vous conseille le livre de Jean-Paul Moureau, « À main nue, soigner et guérir » aux éditions du Seuil, l'enquête de Laetitia Ogorzelak-Guinchard, « Le miracle et l'enquête, les guérisons inexpliquées à l'épreuve de la médecine aux presses universitaires de France ». C'est un livre qui a obtenu le prix Le Monde de la recherche universitaire et qui montre comment on peut avoir une approche rationnelle d'un phénomène en partie irrationnel. Et puis, enfin, Jean Brissonnet, puisque vous représenter l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Je vais faire également de la publicité pour Science et Pseudo-Science, qui est la revue de l'AFIS et qui est, à mon sens, une excellente revue. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Je vous laisse entre de bonnes mains, puisque vous serez bientôt entre les mains de Nagui et de sa bande originale. Et je finis par un merci appuyé à France Bleu Gare-Lozère à Nîmes.